France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je suis Edith Canachisi, je suis compositeur, académicienne, membre de l'Académie des Beaux-Arts. Je suis née le 26 mars 1950 à Lyon.
Bonjour Edith Canachisi.
Bonjour Anne Montaron.
Merci de nous accueillir ici dans cet appartement parisien, au bord de la Seine, ou quasiment au bord de la Seine.
Tout à fait.
Alors, vous faites partie, Edith, des rares compositeurs, compositrices, femmes compositeurs on va dire, qui n'utilisent pas le mot compositrice. Vous n'aimez pas ce mot-là?
C'est-à-dire que j'ai été habituée à... Je suis d'une génération où finalement on ne faisait pas la distinction. Et j'aime parler j'aime dire que je suis compositeur au sens de métier. La composition est pour moi un métier, et puis au sens de créateur. Je pense que qu'on soit homme ou femme, nous sommes des créateurs. Et je pense personnellement que si on pouvait adopter le neutre pour les noms de métier, ça poserait certainement beaucoup moins de problèmes de masculin, de féminin. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour actuellement.
Alors, Edith, vous n'êtes pas parisienne. Vous êtes arrivée à Paris, vous aviez 20 ans après le bac, quelque chose comme ça,
19 ans. Exactement.
Oui. Est-ce qu'on peut évoquer la ville de votre enfance? La ville de votre enfance, c'est Lyon, je crois.
Oui, c'est Lyon. Lyon. Oui, je suis d'une famille lyonnaise, la vieille aristocratie lyonnaise de la Presqu'île. J'ai 4 frères et sœurs. Je suis née 10 ans après les autres. Mon enfance a d'abord été, c'était d'abord une famille extrêmement mélomane, des deux côtés. Mon grand-père faisait du quatuor à cordes, il y avait des instruments à cordes depuis des générations dans la famille de mon père. Du côté de ma mère, sa sœur était professeure de violon, était violoniste aussi, elle a été mon professeur de violon. Et j'ai été donc tout de suite immergée dans la musique. Je me souviens, enfin j'ai un souvenir extrêmement primaire, puisque quand je suis arrivée, je n'étais pas prévue, disons. Et donc l'appartement était très petit, et on avait mis mon berceau à côté du piano de mes sœurs. Et j'ai gardé le souvenir du bruit des marteaux, du son des marteaux sur les cordes. Et ça, c'est quelque chose qui m'est resté presque de façon tout à fait organique. Enfin, c'était très curieux. Et mon père m'a initié, m'a tout de suite fait écouter, bien sûr, beaucoup d'œuvres. Et il allait au concert 3 fois par semaine. Je suis née vraiment dans la musique. Mes sœurs faisaient du piano, donc j'ai commencé à faire du piano. Et puis, on a décrété que finalement, c'était comme il y avait des violonistes dans la famille, que ce serait bien que je fasse du violon. Moi, ça a été un choc pour moi parce que j'aimais énormément le piano. Et ce qui a expliqué que par la suite, je n'ai pas écrit. Enfin, j'ai toujours eu une réticence à écrire pour le piano parce que j'étais restée sur une frustration de ne pas pouvoir continuer à jouer du piano. Et finalement, heureusement que j'ai travaillé le violon, que j'ai commencé par le violon, d'abord parce que ma tante était quelqu'un d'adorable, et puis je m'aperçois maintenant avec le recul que c'est le violon qui a nourri ma musique.
Mais si vous aviez fait du piano, peut-être qu'il en aurait été autrement.
Oui, mais je pense qu'il y a, comment dire, il y a un monde de timbre qui est beaucoup plus évocateur dans le monde des cordes que dans celui du piano, parce que dans celui du piano, le son est fait, tandis que pour le violon, il faut faire le son. Donc là, il faut tout de suite penser aux dynamiques, il faut tout de suite penser suivant qu'on appuie plus ou moins le doigt, tout le problème des harmoniques, etc. Et ça, je pense que c'est pour moi, ça a été une expérience très très importante.
Quand est-ce que vous avez commencé alors à toucher un violon ?
Alors, le piano, c'était très tôt, c'est vers 5 ans, et le violon, vers 7 ans, quelque chose comme ça, 6-7 ans, oui.
Vous alliez chez la tante ou elle venait
j'allais,
chez vous ?
J'allais chez la tante, oui, toutes les semaines, j'allais chez ma tante. Alors, évidemment, le gros problème, c'était que j'étais petite fille de bonne famille, et que dans ces bonnes familles, tout le monde était mélomane, mais il n'était pas question de faire de la musique sa profession. Et quand j'ai eu 10 ans, ma tante, qui m'aimait beaucoup, est allée voir mon père pour lui demander que j'entre au conservatoire de Lyon. Et mon père, qui n'était pas quelqu'un de très facile, est entré dans une violente colère et lui a dit qu'il n'en était pas question. Et j'étais derrière la porte. Je me souviens très bien de ça, j'avais donc 10 ans, j'étais derrière la porte. Et ça a été un déclic pour moi, je me suis dit, bon, quand j'aurai mon bac, j'irai au conservatoire. Et ce qui s'est exactement passé, parce que quand j'ai eu mon bac, je suis entrée, mais j'ai dû attendre l'âge de 17 ans, je suis entrée au conservatoire de Lyon, et là j'ai eu un professeur qui s'appelle Jeanne Gauthier, qui était une femme tout à fait remarquable, et qui m'a beaucoup aidée justement quand j'ai voulu partir à Paris. Je l'avais mis un peu dans la confidence que je ne voulais pas rester dans cette ville, et elle m'a beaucoup aidée à ce moment-là. En arrière. Par contre, j'ai eu énormément de plaisir avec le violon grâce à un professeur de formation musicale qui faisait des cours chez elle et qui était une des premières personnes à appliquer les méthodes actives. Et en plus de ça, elle enseignait la formation musicale par la musique, ce qu'on recherche beaucoup actuellement.
Et oui.
Et dès que j'ai su jouer 3 notes de violon, elle m'a intégré dans un ensemble. Et je me souviens qu'une des premières choses que j'ai jouées, c'est l'adagio du quintet de Schumann. Alors ça, c'était formidable. Et puis, on chantait aussi. Enfin, j'ai fait partie de la Cigale de Lyon, qui est une très, très belle chorale d'enfants,
oui,
pendant plusieurs années. Voilà, donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir de faire de la musique à cette époque-là.
De la musique de chambre, oui, la musique chorale.
Musique de chambre, oui. Musique chorale, etc.
Vous aviez quel âge quand...
Ça, j'avais entre 8 et 15, 16, voilà, c'était... Et puis, sans oublier le fait que le mari de ma tante, donc mon oncle, dirigeait la Société de musique de chambre de Lyon. Donc je baignais vraiment dans le milieu mélomane lyonnais. Et c'était très drôle parce que c'était un petit milieu quand même très, très restreint. Et les concerts donnaient lieu à des discussions très, très, très animées sur les gens qui disaient « Non, je ne suis pas d'accord avec telle interprétation, moi je préfère beaucoup ça, etc. » Et c'était très, très intéressant.
J'ai envie qu'on revienne, Edith Kanachisi, à cette enfance, parce que en filigrane, la Perse peut-être des impressions un peu négatives ou en tout cas douloureuses d'une enfance dans laquelle j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de possibilités de dialoguer avec les parents, de partager vos passions.
Non, pas du tout.
Du tout, ouais.
Enfin, je suis un peu, je suis peut-être un petit peu trop négative par rapport à mon père, avec qui, pour le coup, j'avais des conversations effectivement très intéressantes sur le plan, parce que c'était quelqu'un de très cultivé, sur le plan musical et sur le plan littéraire aussi. Mais bon, il y avait, disons que c'était une ambiance très très difficile à la maison, enfin, je tiens pas à en parler ici, et du coup, ça a occulté un peu pas mal de choses. Donc, c'est vrai que j'en ai gardé peut-être un souvenir un peu négatif, non pas au niveau de la musique, mais surtout au niveau personnel.
Oui.
Et ça a été, d'ailleurs, ça a beaucoup compté dans le fait que j'ai voulu aller respirer ailleurs assez tôt.
Le violon, c'était un peu votre jardin secret, même s'il y avait un environnement musical.
Alors, la musique est vraiment devenue mon jardin secret et mon lieu. Enfin,
un refuge, d'une certaine manière.
Mon refuge, oui. Le violon, la musique.
France Musique, les grands entretiens d'Edith Cana de Chizy.
Toute la famille allait à l'église à Lyon où c'était...
Oui, j'allais surtout. Alors ça, effectivement, c'est en lien avec la musique parce que j'allais notamment, j'habitais donc pas loin de la cathédrale de Saint-Jean, qui était donc de l'autre côté de la Saône. Et mon père, j'allais à la messe le dimanche matin avec mon père, à la messe de 10h. Et il y avait toujours une sortie d'orgue avec notamment l'organiste Édouard Comette, qui était l'organiste lyonnais. Et on s'asseyait en bas de l'orgue et on écoutait la sortie de l'orgue. Ce qui fait que je connaissais absolument tout le répertoire de l'orgue. Et c'est pour ça que j'ai mis tellement longtemps avant d'écrire une pièce pour orgue, parce que ça me rappelait tellement ce répertoire pour orgue et cette espèce de... Je dirais pas de sentiments un peu mitigés quand même de ces églises. Je dirais pas de nostalgie, mais un peu de tristesse quand même. Hein. C'était pour une enfant, c'était quand même pas un environnement très très
épanouissant.
Très épanouissant, oui, très drôle. Enfin, très
oui.
Voilà. Et surtout, justement, le fait d'attendre que la sortie soit terminée, et puis alors on applaudissait à la fin. Et voilà. Oui. Alors donc ça, c'était toute mon histoire vis-à-vis de l'orgue. Et quand on m'a demandé d'écrire pour eux, j'ai dit ah non, ah non, parce que ça me reportait tellement à ce souvenir d'enfance. Alors autre lieu de mon enfance à Lyon, c'était Fourvière. Parce que, outre les messes du dimanche matin, donc à la cathédrale Saint-Jean, il y avait les messes de l'après-midi à Fourvière. Et alors là, on montait avec la ficelle, qui existe toujours, sauf que ça s'appelle plus la ficelle. C'était effectivement, il y avait une énorme ficelle qui mettait en branle ce wagon qui arrivait en haut avec les énormes roues en haut, justement. Ça m'intéressait beaucoup, ça me fascinait beaucoup quand j'étais petite. Et puis, il y avait cette basilique de Fourvière.
Oui.
Avec toutes ces mosaïques qui, moi, me fascinaient aussi, avec toute l'histoire, justement, du vœu qui avait précédé parce qu'il y a eu la guérison de la peste, et ça a été un vœu, justement, de construire la basilique de Fourvière pour avoir la guérison des gens.
Et vous vous souvenez, Edith Canaccisi, d'émotions musicales? Alors peut-être pas liées à l'orgue, peut-être que c'était plutôt la chorale, peut-être que c'était plutôt les concerts classiques.
Ah oui, ou... oui, bien sûr. Oui. Notamment, il y a une chose qui m'avait beaucoup, beaucoup marquée, c'était l'apprenti sorcier. Parce que mon père m'avait raconté toute l'histoire de l'apprenti sorcier. Mmh. Mais là, j'avais 3-4 ans. Mmh. Et cet apprenti sorcier, ça m'avait vraiment bouleversé. Il y a eu ça, et puis L'oiseau de feu, de Stravinsky. Mmh. J'aimais énormément ces concerts. Je me souviens de Quatuor à cordes, je me souviens notamment... Alors Beethoven, bien sûr, ça a été vraiment quelque chose de très, très important pour moi. Beaucoup, beaucoup les Quatuors à cordes. Mmh. Et puis notamment les sonates, pour ce que j'écoutais en boucle, ça aussi, quand j'étais petite, adolescente. Les sonates, violon, piano, les... Mmh. Oui, non, j'ai vraiment vécu là-dedans. Ce qui me fait dire qu'en fait, c'est la musique qui a été première. C'est ensuite que j'ai appris justement comment ça s'écrivait, comment ça s'appelait, etc. Et je crois qu'effectivement, il faut vraiment que ce soit conjoint, c'est-à-dire qu'il y ait une expérience musicale qui soit conjointe avec l'enseignement des techniques d'écriture. Mmh. L'expérience de l'écoute, l'expérience sensorielle de la musique, est vraiment quelque chose qui vous imprègne et qui reste, qui est indélébile.
Évoquer le métier de votre père.
Alors, mon père voulait être militaire, voulait être officier. Donc, il a commencé l'école d'officier de Couette-Quidan et mon père a été malade. Il a pris un virus, une encéphalite qui était très répandue après la guerre de 14. Mon père est né en 1905. Ce qui fait qu'on s'en est rendu compte trop tard et ce qui fait qu'à l'âge de 18 ans, il s'est retrouvé à moitié paralysé. Ça a été pour lui une déconvenue énorme. Et donc, il s'est, à ce moment-là, reconverti dans la soierie lyonnaise, qui, jusque dans les années 60, a été vraiment une industrie très, très importante. Et il était devenu ce qu'on appelle technicien en soierie, c'est-à-dire qu'il créait les tissus. Et pour moi, ça a été effectivement, c'était très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de magasins de tissus à l'époque. Et quand on se promenait dans la rue, et il me disait, tu vois, ce tissu-là, c'est moi qui l'ai créé avec, il y a un fil de rayonne, il y a un fil de soie, il y a un fil de coton, etc. Et j'ai vu ça. Et mon frère était ce qu'on appelle metteur en carte. C'est-à-dire qu'une fois que le tissu est créé, il y a des papiers millimétrés. Et on fait une mise en carte avec les couleurs extrêmement précises qu'on donne ensuite à tisser. On donne au métier à tisser pour faire. Donc j'ai un peu suivi comme ça cette façon de créer les tissus.
Vous avez vu justement le travail du tissage, des tisserands et...
oui. Oui, tout à fait, parce qu'en plus on habitait au pied de la Croix-Rousse.
D'accord.
Où il y avait justement, dans la montée de la Croix-Rousse, il y avait tous les métiers à tisser qui se sont tus maintenant. Enfin, qui...
Oui.
Enfin, tout ça pour dire que mon père était un très bon pianiste. C'était aussi quelqu'un qui aurait très certainement souhaité aussi faire une carrière musicale. Bien sûr qu'il était incompatible avec une vocation d'officier. Donc, tout ça a été brutalement stoppé du fait de sa maladie. Il est quand même mort à 90 ans. Mais je l'ai vu boiter toute sa vie. Il avait tout le côté gauche à moitié paralysé. Ce qui a expliqué un petit peu son caractère difficile et le fait qu'il y avait une ambiance très, très, très difficile à vivre à la maison. Voilà. Et alors, une autre expérience qui m'est restée, justement, c'est que, évidemment, étant la petite dernière, j'étais très, très proche de lui. Et on se promenait très souvent ensemble, notamment quand il m'emmenait à... à Saint-Jean ou quand il m'emmenait à Fourvière. Et il y avait une expérience qui m'est restée, c'est qu'il voulait toujours que je lui donne la main. Et en réalité, c'était pas tellement pour moi, c'était pour se rassurer lui. Et c'est quelque chose qui m'est resté après, cette impression d'être prisonnière. C'est-à-dire d'avoir toujours son père qui voulait, qui vous tenait par la main. Et ça, c'est aussi peut-être inconsciemment une raison pour laquelle j'ai voulu justement couper ce lien assez rapidement qui, quelque part, qui m'étouffait.
Votre mère, elle était mélomane ?
Alors, ma mère était très musicienne.
Oui.
Elle était très, très musicienne. Elle avait l'oreille absolue. Elle chantait très, très bien. Simplement, elle a été un peu sacrifiée parce que... Elle était beaujolaise. Elle était de village de Lima, près de Villefranche. Et elle était un peu sacrifiée parce qu'elle arrivait en dernier. Il y avait 3 filles et 1 garçon. Et c'est ma tante, la sœur aînée, à qui on a permis de continuer à faire des études, surtout à travailler le violon. Mmh. Et maman avait commencé le violon aussi, ce qui fait qu'elle me faisait travailler. Oui. Mais elle n'a pas pu continuer, il fallait qu'elle gagne sa vie, et donc elle a été secrétaire en soirée. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. Mmh. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui... vraiment qui a suivi ma musique, et qui, je pense qu'elle la comprenait beaucoup mieux que... C'était celle de la famille qui la comprenait le mieux.
Pour illustrer les figures paternelles et maternelles, un extrait de Esposo, les époux, l'une des Canciones dell'Alma, musique Edith Canaccisi, poème de Jean Delacroix, dans la version du chœur de chambre néerlandais dirigée par Roland Erabedian. Ainsi se referme le premier volet de ces grands entretiens réalisés par Marie Groux avec Alexandre Abergel, Valérie Lavalard, Bastien Varigaud, Aude Vassan et Flora Sternadel. La suite de ce portrait demain à la même heure, podcast et réécoute sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.